Tu les aimes tes cours de philo?
C'est vraiment très enrichissant.
Je vous demande encore un peu de pratique.
Bonjour Aurélien.
Bonjour Adèle.
Aujourd'hui, votre question, c'est celle de savoir est-ce que les philosophes, tout sages qu'ils soient, ne seraient pas des âmes incomplètes?
Alors, les philosophes marchent souvent par deux, comme Platon et Aristote dans la célèbre fresque de Raphaël. Que serait l'être absolu de Hegel sans la philosophie critique de Kant, qui, en bannissant de tels objets de la métaphysique, l'aura comme acculé à l'existence? Que serait Parménide, le philosophe de l'être sans Héraclite, celui du devenir? Mais par-delà ces jeux d'opposition, certains philosophes interagissent entre eux comme les lentilles d'un télescope, séparément. Ils sont myopes, utilisés ensemble, ils acquièrent une netteté, un champ spectaculaire. Sans Platon, Socrate serait sans doute resté un simple agitateur, peut-être même un démagogue démasqué. Nous n'aurions pas su voir la puissance de ses interrogations, nous n'aurions pas compris, sans le mythe platonicien de la caverne, que ses incessantes questions relevaient de l'écholocalisation. Sans Marx, la philosophie de l'histoire de Hegel serait sans doute tombée dans un kitsch romantique dénué de tout intérêt opérationnel. Mais plus mystérieux est le cas de ces philosophes qui ne se sont ni lus, ni accordés, ni réfutés, mais qui semblent faits pour fonctionner ensemble.
Des rencontres ratées, en quelque sorte.
Mais pas pour nous, lecteurs, car c'est à nous, cette fois, de faire tout le travail, de disposer autour de la lumière vacillante de l'un, les lentilles de Fresnel, de l'autre. C'est comme ça que j'associe Walter Benjamin et Guy Debord. Comment résumer l'œuvre de Benjamin? Peut-être en disant que de tous les philosophes, c'est celui qui se laisse le moins facilement résumer.
Oui, ben ça c'est de la triche.
Un peu. Mais disons que pour cerner le noyau lumineux de l'œuvre de Benjamin, j'ai besoin de l'œuvre de Debord, de sa critique implacable de la société du spectacle. Et là, je crois pouvoir tomber, derrière les panneaux mobiles d'une lanterne magique, sur une image presque fixe de Walter Benjamin. Walter Benjamin comme un sphinx de la culture, comme une énigme ininterrompue, là où il est, là où il naît dans le Berlin bourgeois de la Belle Époque, le Berlin de sa proustienne enfance, qu'il a condensé dans les courts récits de Sens Unique. La société du spectacle n'existe pas. Encore. Elle est pourtant partout chez elle, dans les meubles luisants des salons, dans les horloges mécaniques, dans les publicités déjà omniprésentes. Walter Benjamin est le premier exégète de l'œuvre de Debord, celui qui, le premier, aura rêvé son enfance plutôt qu'il ne l'aura vécu, rêvé ou cauchemardé, car jamais Benjamin ne se repliera sur les consolations pétrifiées de la nostalgie. Il sait que les images sont empoisonnées.
Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée, qui n'exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil.
Alors Walter Benjamin notait toutes ses lectures, mais il manque un livre à la liste, un livre qu'il aurait lu pourtant avant tous les autres, La société du spectacle, livre dont il serait, malgré l'impossibilité chronologique, le personnage principal. Mais il existe un autre livre de Debord, un livre qu'on lit moins, mais qui est au moins aussi important que celui-ci.
Et de quel livre parlez-vous?
De ses commentaires à la société du spectacle. Un livre dans lequel il devient stratège. Un livre qui décrit les irisations politiques que produit autour de lui le spectacle triomphant, un monde du secret, un monde où on vit et on meurt au point de confluence d'un très grand nombre de mystères. Les commentaires à la société du spectacle sont un traité d'estompe. Debord complète les images obsédantes du premier livre en décrivant les ombres qui les relient, les souterrains de la politique.
Et donc il aurait manqué à Walter Benjamin de rencontrer cette sorte de passeur.
En tout cas, Walter Benjamin, le prisonnier de Pétain de Franco et d'Hitler, le suicidé de Portbou, n'avait évidemment pas lu ce livre, n'avait même pas imaginé son existence. Il aurait sinon, à défaut de parvenir à s'échapper, su que le piège était encore plus grand qu'il se l'imaginait, que la toxicité des images avait envahi la politique et que l'intellectuel, bientôt, ne pourrait plus survivre qu'en devenant une ombre, un stratège de sa propre vie.
Merci Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie.